Très bon réveil à tous, voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'urgence écologique une nouvelle fois à la une en France. Après les inondations meurtrières dans l'Aude hier, 11 personnes tuées. Les rescapés ont parfois dormi dans des gymnases ou bien hébergés par des habitants. Nous serons dans un instant à Trèbes où 6 personnes sont mortes hier. Cet épisode météorologique d'une rare violence était-il prévisible? L'alerte de Météo France a-t-elle été donnée trop tard? Ce sont quelques-unes des questions qui se posent encore ce matin et des experts appellent à en finir avec la bétonisation des villes.
L'Arabie Saoudite envisage de reconnaître que le journaliste Jamal Khashoggi est mort lors d'un interrogatoire qui aurait mal tourné au consulat saoudien à Istanbul.
C'est ce que rapportent des médias américains comme CNN. Riyad tenterait de minimiser son implication dans la disparition de l'éditorialiste critique du pouvoir saoudien. Donald Trump aux États-Unis suggère que des tueurs imprévisibles, incontrôlables auraient pu tuer Jamal Khashoggi. Nous irons également en Égypte dans ce journal où pas une semaine ne passe sans que des militants activistes opposants ne soient arrêtés par la police. Reprise aujourd'hui du procès d'Armand Ahmed Douma, détenu depuis 5 ans, l'une des icônes de la révolution de 2011.
Et puis Catherine, dans une dizaine de minutes, la question du jour, évaluation en CPCE1, le niveau baisse-t-il? On posera la question à Franck Rermus, il est directeur de recherche au CNRS et professeur au laboratoire de sciences cognitives de l'école normale supérieure.
Le département de l'Aude commence à panser ses plaies ce matin et à évaluer l'ampleur des dégâts après les inondations dévastatrices et meurtrières d'hier. 11 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi à la suite de violents orages. L'un des bilans les plus meurtriers de ces dernières années. 1500 foyers sont toujours privés d'électricité. Les écoles sont fermées aujourd'hui. Le trafic ferroviaire interrompu. L'alerte rouge est toujours en vigueur pour crue. Et la polémique monte sur la vigilance annoncée par Météo France. Est-elle arrivée trop tard? Épisode météorologique imprévisible, selon le Premier ministre Édouard Philippe, qui s'est rendu sur place hier. L'équivalent de 3 mois de pluie en quelques heures, tout à fait inhabituel, confirme le maire de Trèbes, Éric Ménassy, au micro de Thibault Lefèvre.
Être en colère lorsque vous vivez un épisode aussi dramatique, je crois que c'est humain et je peux comprendre la colère de certaines personnes. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que aussi bien les services de l'État que les services de la commune ont été au rendez-vous de cet accompagnement pendant la tragédie. Je vous le rappelle, il y a une vigilance orange. Des vigilances orange, nous en avons des dizaines par an, des dizaines et des dizaines. À aucun moment, il nous a été signifié que nous risquions une telle tragédie. Et j'étais dehors avec mes équipes depuis minuit. C'est arrivé d'une manière et d'une soudaineté imprévisible.
Éric Ménassy, le maire de Trèbes dans l'Aude, où vous trouvez ce matin Mathieu Mondoloni, bonjour.
Bonjour.
6 personnes ont été tuées à Trèbes et une quarantaine de rescapés ont dormi cette nuit dans le dojo de la commune. Ces habitants de Trèbes ont-ils été surpris par la montée des eaux hier ?
Oui, effectivement, comme tout le monde ici, ils ont été très surpris. C'est monté très vite, en quelques heures seulement, me racontaient les habitants avec qui j'ai pu discuter ce matin, qui commencent à peine à se réveiller, Catherine, pour le moment, après une nuit très compliquée, une nuit hachée. Ils sont épuisés, une nuit hachée. Pourquoi ? Parce que, eh bien, ils font encore des cauchemars, me confiait Patrice tout à l'heure. Il s'est réveillé à peu près toutes les demi-heures, toutes les heures. Il s'est levé, il allait prendre un café, il a discuté avec les bénévoles de la Croix-Rouge. Ils sont 5 ici à les encadrer. Il y a également des militaires qui sont présents dans ce dojo départemental de Trèbes. Ils sont ici pour veiller à la sécurité des sinistrés, mais également sur les habitations qui ont été abandonnées par les gens qui ont dû être évacués. Une nuit difficile pour Patrice. Et ce souvenir revigoré par la pluie cette nuit qui est venue s'abattre sur le toit du dojo à 23h, il m'a dit qu'immédiatement il a ouvert les yeux, comme beaucoup des sinistrés présents dans ce gymnase, en se souvenant de ce qu'ils avaient vécu la nuit dernière.
Mathieu Mondoloni, merci, en direct de Trèbes ce matin pour France Culture. Emmanuel Macron annonce qu'il se rendra dans l'Aude dès que possible. Sur le plan politique, encore, les Verts et la France Insoumise ont rappelé hier à l'exécutif l'urgence écologique que soulignent les catastrophes naturelles comme ces inondations meurtrières donc hier dans l'Aude. Quant au chercheur Daniel Scherzer, enseignant à l'École nationale des ponts et chaussées, il plaide lui pour un système de villes résilientes ou comment arrêter avec le bétonnage en milieu urbain.
On les a conçues trop comme des villes de service, en oubliant que les villes interagissent avec leur environnement et que ces interactions peuvent être des fois très sévères. Alors en particulier, il y a le surbétonnage de certaines années qui accroît considérablement le ruissellement par rapport au contraire à des bassins naturels Et donc actuellement, effectivement, une des premières mesures de type de mesure de résilience, c'est d'arrêter ce bétonnage, y compris débétonner, et d'introduire des mesures beaucoup plus souples pour le ruissellement, stocker l'eau par différents moyens. Par exemple, des terrains de sport peuvent être utilisés pour terrains d'expansion des inondations. On peut modeler la ville pour être capable justement de diminuer sensiblement le ruissellement et à partir de là les inondations.
Daniel Scherzer, enseignant à l'École nationale des ponts et chaussées, interrogé hier par Stanislas Vazak.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Lui s'est rendu hier dans les régions de Floride et de Géorgie, dévastées il y a près d'une semaine par l'ouragan Michael.
Donald Trump est parti hier à la rencontre des milliers d'habitants qui tentent de survivre encore aujourd'hui sans eau courante ni électricité. Mais son déplacement s'est fait remarquer pour toute autre chose. Alors que la police turque a fini de perquisitionner le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul cette nuit, Donald Trump croit en savoir plus sur la disparition du journaliste Jamal Khashoggi. Le président des États-Unis s'est entretenu hier par téléphone avec le roi Salman d'Arabie Saoudite et Donald Trump a suggéré que la disparition du journaliste saoudien critique de Riyad pourrait être le fait de rogue killers, de tueurs incontrôlables. Donald Trump a dépêché son secrétaire d'État Mike Pompeo à Riyad pour tenter de faire la lumière sur cette affaire.
Je viens de parler avec le roi d'Arabie Saoudite qui dit tout ignorer de ce qui a pu arriver à celui qu'il a appelé notre citoyen saoudien. J'ai demandé au secrétaire d'État Mike Pompeo de prendre un avion au plus vite, d'aller en Arabie Saoudite, de faire des étapes diplomatiques au besoin, d'aller en Turquie s'il le faut. Le roi saoudien m'a dit qu'il collaborait étroitement avec la Turquie pour avoir le fin mot de cette histoire. Donc, on verra bien ce qui en ressortira. Nous ne laisserons aucune zone d'ombre. Cela étant dit, le roi saoudien dit n'être au courant de rien. Peut-être que, enfin je ne veux pas spéculer à sa place, mais il m'a semblé que peut-être cela pourrait être le fait de tueurs incontrôlables. Qui sait ? Nous allons tenter de faire toute la lumière sur cette affaire. Mais le roi nie tout en bloc.
Le président des États-Unis Donald Trump hier, alors que des médias américains comme CNN affirment que l'Arabie Saoudite envisage de reconnaître que Jamal Khashoggi est mort lors d'un interrogatoire qui aurait mal tourné au consulat de Riyad à Istanbul. Selon CNN, citant deux sources anonymes, Riyad préparerait un rapport dans lequel il tenterait de minimiser son implication dans la disparition du journaliste critique donc du pouvoir saoudien. Après les États-Unis et le Guatemala, l'Australie souhaite transférer son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. C'est ce qu'a annoncé ce matin le Premier ministre australien Scott Morrison. Direction l'Égypte à présent, où pas une semaine ne passe sans que des militants, des activistes, des opposants au pouvoir ne soient arrêtés par la police. Les fers de lance de la révolution de 2011, eux, sont pour beaucoup en prison et ce depuis plusieurs années. C'est le cas d'Ahmed Douma, 33 ans, détenu depuis 5 ans, condamné en première instance à perpétuité. Il doit être rejugé aujourd'hui. Il est accusé de possession d'armes et d'incitation à la violence dans des procès considérés comme politiques et très partiaux, François Mferkataji.
Il est l'une des figures de la révolution de 2011 et milite depuis des années pour la justice sociale, la promotion de la démocratie et la défense des droits humains. À l'origine d'une grève de travailleurs égyptiens en 2006, il est aussi cofondateur du 6 avril, un mouvement de gauche révolutionnaire. Ahmed Douma, 33 ans, a été mis en prison par tous les dirigeants successifs en Égypte depuis sa naissance. Mais c'est sous le président Abdel Fattah al-Sissi qu'il purge sa plus longue peine. Derrière les barreaux depuis 5 ans, il a frôlé la mort après une grève de la faim de plusieurs mois et a passé plus de 1200 jours en confinement total, une salle de 3 mètres carrés dans le noir complet. Il n'a pas le profil du dangereux terroriste, mais sa liberté de ton et son insolence exaspèrent les autorités égyptiennes. En 2015, il réagit par un éclat de rire et des applaudissements à sa condamnation à perpétuité pour rassemblement illégal, trouble à l'ordre public et incitation à la violence. Il avait participé à une manifestation en décembre 2011 devant le cabinet du Premier ministre. Si ce n'était pas aussi dramatique, la scène pourrait être celle d'une bande dessinée ou d'un film comique. Elle a fait le tour du web, le juge, lunettes de soleil sur le nez, se lève furieux et lui lance « Vous m'applaudissez, montrez du respect à la cour ou je vous donne 3 ans de prison de plus ». Réponse immédiate de Douma, large sourire aux lèvres, Ça me suffit, je suis très heureux de ce verdict. En octobre 2017, sa condamnation à perpétuité a été annulée par la Cour de cassation. Il doit être rejugé aujourd'hui. Mais hier encore, un membre de son mouvement politique, le 6 avril, a été arrêté par les forces de police. Ils sont plus de 60 000 prisonniers politiques en Égypte.
François Hume, Ferkatadji au Caire pour France Culture. C'est l'homme le plus riche du monde. Le patron d'Amazon, Jeff Bezos, a indiqué hier qu'il allait augmenter encore son investissement annuel dans Blue Origin, la compagnie spatiale qu'il a fondée en 2000. Jeff Bezos, dont la fortune est estimée à 145 milliards de dollars par Forbes, veut se développer à la fois sur le marché du tourisme spatial pour des voyages de quelques minutes à la frontière de l'espace et dans le lancement aussi de fusées pour des satellites et dans l'exploration spatiale comme sa rivale SpaceX, fondée par un autre milliardaire, Elon Musk. SpaceX qui est déjà opérationnel depuis 6 ans. Lui aussi s'était lancé dans la conquête spatiale fondant Stratolaunch, qui a construit l'avion le plus grand du monde, testé actuellement dans le désert californien avant un premier vol d'essai prévu pour 2019. Le milliardaire Paul Allen, cofondateur de Microsoft, est mort hier à l'âge de 65 ans, succombant à une récidive du cancer. Dans les années 70, avec Bill Gates, donc, il avait fondé Microsoft et révolutionner le monde de l'informatique, Grégory Phillips.
Paul Allen a 22 ans, Bill Gates 19. Quand tous les deux à Albuquerque au Nouveau-Mexique, ils créent Microsoft et ensemble vont révolutionner l'informatique. Paul Allen quittera l'entreprise 8 ans plus tard en 1983 à cause de problèmes de santé mais aussi de sa mésentente croissante avec Gates. Dans son autobiographie parue en 2011, Allen avait dressé un portrait très sombre de son ancien associé, le présentant comme autoritaire et cassant. Paul Allen ensuite fondera sa propre société d'investissement, active dans les secteurs de la culture. Il était passionné de musique rock, des médias et du sport. Allen était le propriétaire de l'équipe de football de Seattle, sa ville natale, et des Blazers de Portland, une équipe de basketball. Comme d'autres milliardaires américains, il s'était aussi lancé dans la conquête spatiale avec un projet d'avion géant censé lancer des fusées dans l'espace. Comme son ancien ami Bill Gates, Paul Allen était également un philanthrope. Il avait offert 100 millions de dollars à la lutte contre Ebola il y a 4 ans. Avec une fortune estimée à plus de 20 milliards de dollars, Paul Allen faisait partie des 50 personnes les plus riches du monde.
Paul Allen qui laisse derrière lui une fortune estimée à plus de 20 milliards de dollars. À suivre dans le journal de 7h30, un Brexit sans accord, scénario de plus en plus probable, estime le président du Conseil européen, Donald Tusk, juste avant l'ouverture d'un sommet européen à Bruxelles. Le temps de ce mardi 16 octobre, encore pluvieux près de la Méditerranée, l'Aude reste, je le rappelle, en alerte rouge pour inondation. Sur le reste du pays, le temps sera plus calme et souvent bien ensoleillé. Les températures comprises ce matin entre 8 et 14 degrés en général, jusqu'à 18 près de la Méditerranée. Cet après-midi, comptez de 16 à 19 en Bretagne, 20 à 26 dans le Nord-Est, 18 à 22 degrés partout ailleurs, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutu.